VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En RDC, l'opposant Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanza, accusé d'avoir insulté le président Joseph Kabila, est ressorti aujourd'hui libre du palais de justice de Lubumbashi, dans le sud-est du pays, où il a été interrogé pendant 2h30 par les autorités judiciaires. Le parquet de Lubumbashi accuse M. Kiongo d'avoir insulté le président Kabila dans une vidéo réalisée en avril. Un magistrat a projeté le film en présence de l'accusé et de ses avocats, selon une source judiciaire, mais la défense a mis en doute son authenticité et fait état d'un montage. L'interrogatoire s'est déroulé dans une grande sérénité. L'innocence de mon client pourra éclater si la justice continue d'adopter cette attitude, a déclaré à l'AFP Hervé Diekes Kiongou, l'un des avocats de la défense. Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanza est retourné libre chez lui, mais il reste à la disposition de la justice pour d'autres interrogatoires. Près de 400 policiers avaient été déployés autour du palais de justice de Lubumbashi, deuxième ville du pays, pendant sa comparution au tribunal. Figure politique de la région et proche du leader d'opposition en exil Moïse Katumbi, M. Kiongo a notamment occupé dans les années 1990 le poste de gouverneur de la province du Grand Katanga, divisé en quatre provinces en 2015. Il a été aussi président de l'Assemblée provinciale katangaise entre 2006 et juillet 2016 et est actuellement le coordonnateur régional dans le sud-est du pays du Rassemblement, la coalition d'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi, opposant historique en RDC. Et toujours en RDC, le président Joseph Kabila a reconduit la médiation de l'épiscopat congolais en vue de l'application de l'accord de cogestion du pays jusqu'à l'élection de son successeur. Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour sa part enjoint pouvoir et opposition d'appliquer rapidement et complètement l'accord en question. Au Tchad, la plateforme revendicative syndicale exige l'annulation du décret portant réduction des indemnités de 50% et le retrait de la loi portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics, adopté le 30 décembre 2016 par l'Assemblée nationale. Devant le refus du gouvernement d'ouvrir le dialogue, les syndicalistes ont suspendu le service minimum instauré le 19 décembre dernier. Nathalie Barge a joint Michel Barca, président de l'Union syndicale du Tchad.
Ils ont lancé, comme effet d'annonce le plus souvent, vers la fin de l'année, qu'ils allaient payer le salaire de décembre pour que les gens puissent reprendre le travail de trois, mais personne ne m'a confirmé le paiement de ce salaire. Pour commencer à dialoguer avec nous, il a fallu attendre 2 mois. Et c'est seulement ces derniers temps, dit-il, pour sauver l'année scolaire et pour que les administrations reprennent. Il a commencé à faire un semblant de dialogue, mais qui en réalité n'a rien donné. Ce qu'il sait faire le mieux, c'est de prendre des mesures pour mieux nous frapper, c'est tout. Mais il y a les arriérés de pension qui ne sont pas encore payés, il y a les sujets de maîtres communautaires qui ne sont pas encore payés. Et alors, pour les maîtres communautaires, ça fait 30 mois.
Michel Barca, président de l'Union syndicale du Tchad. Cameroun, le gouvernement camerounais, les agences de l'ONU et les organisations non gouvernementales partenaires ont lancé le 3 janvier à Yaoundé un plan d'intervention de 310 millions de dollars pour fournir une assistance vitale à 1 200 000 personnes dans les régions du nord et de l'est du pays. Tout en couvrant les besoins immédiats des plus vulnérables, ce plan met également l'accent sur l'action complémentaire et la coopération avec le gouvernement et les partenaires au développement. Au micro de John Lindon, les explications de Max Schott du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'OCHA.
310 millions de dollars, ils vont être dits nécessaires pour couvrir les besoins de seulement 41% des personnes en urgence besoin d'assistance. En total, il y a 2,9 millions de personnes en besoin d'assistance humanitaire et les 310 000 de dollars vont cibler 1,2 million de personnes. Le plan de réponse humanitaire de l'année dernière, il a été financé à 64% ou 178 millions de dollars et on espère que les donateurs vont donner encore plus de générosité pour le plan de réponse humanitaire 2017.
Mark Schott, d'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Ghana, le président sortant John Dramani Mahama a exhorté ses compatriotes à se rassembler derrière son successeur Nana Akufo-Addo lors de son dernier discours à la nation ce jeudi. L'investiture du président élu Akufo-Addo à la tête de l'État est prévue ce samedi. Il a battu le président sortant à l'élection présidentielle du 7 décembre avec 53% des voix en promettant de relancer l'économie et d'éliminer la corruption au sein des institutions. Dans son discours d'adieu, John Dramani Mahama a défendu son mandat en affirmant que dans des conditions économiques difficiles, il avait pu quand même mener à terme de nombreux projets d'infrastructures et fournir des services de santé et d'eau à des millions de personnes. Le Ghana, un bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, est l'un des rares pays africains cette année où les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas été contestés. En Gambie, le chef d'état-major de l'armée gambienne, le général Ousmane Badji, a renouvelé son soutien au président sortant Yahya Jammeh, qui refuse de céder le pouvoir malgré la menace d'une intervention militaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les précisions de Michel Joseph.
Dans une lettre adressée au président Jammeh et reprise mercredi par un journal proche du pouvoir, le général, lui, réitère l'assurance de la loyauté indéfectible des forces armées gambiennes. À la suite de la victoire de l'opposant Adama Barrow à la présidentielle du mois dernier et la reconnaissance de ce résultat par le président Yahya Jammeh, Ousmane Badjie avait pourtant fait une déclaration publique pour demander à l'armée de se mettre aux ordres du tombeur du président élu. Mais très vite, il a suivi le président sortant dans son revirement et sa décision de contester la validité du scrutin du 1er décembre. Le général Badjie dirigera ensuite personnellement le quadrillage du siège de la commission électorale gambienne. Pour sa part, le président sortant gambien semble déterminé à engager l'épreuve de force avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il accuse l'organisation sous-régionale de lui avoir adressé une déclaration de guerre en se disant prête à user de tous les moyens pour le faire partir du pouvoir.
Niger, nouvelle reddition de combattants nigériens du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Dans un entretien diffusé mercredi soir sur la télévision publique Télé Sahel, le ministre nigérien de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a annoncé qu'un nouveau groupe d'une vingtaine de djihadistes nigériens de Boko Haram, de la région de Difa, dans le sud-est du pays, s'est rendu aux autorités 10 jours après la reddition d'une trentaine d'autres combattants. Au total, nous avons une cinquantaine de combattants de Boko Haram qui ont abandonné la lutte depuis le 27 décembre, a souligné le ministre Bazoum Mohamed, qui estime que la guerre contre Boko Haram dans certains secteurs est déjà terminée. Rappelons que dans un message de vœux à la nation samedi soir, le président nigérien Mahamadou Issoufou avait lancé un appel à tous ceux qui se sont laissés entraîner dans la voie de l'égarement par Boko Haram à se ressaisir et déposer les armes. Crise en Libye, l'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, s'est dit préoccupé par l'évolution de la situation dans le pays, notamment les récents incidents entre groupes rivaux. Le point avec Gabi Dorsil.
La tension dans le sud libyen est source d'inquiétude, a dit Martin Kobler, appelant à la modération les forces pro-gouvernementales et les milices rivales. Cet appel intervient suite à une attaque en début de semaine contre un avion transportant des officiers et dignitaires de la région de Misrata, 200 km à l'est de Tripoli, qui se rendait à des obsèques dans le sud de la Libye. L'attaque attribuée aux forces du général Khalifa Haftar, opposée au gouvernement d'Union nationale, a fait un mort parmi les civils. Plusieurs militaires ont été blessés. Les miliciens de Misrata ont décidé de renforcer leur présence dans la zone de Joufra, plus de 600 km au sud de la capitale, ravivant davantage les tensions. Martin Kobler exhorte les belligérants au dialogue afin d'éviter le retour à un conflit ouvert. La Libye reste encore divisée entre deux parlements, l'un à Tripoli et l'autre à Tobrouk dans l'Est, dont une majorité des membres soutient le général Haftar.
Actualité américaine, les États-Unis ont inscrit ce jeudi sur leur liste noire de terroristes internationaux le fils du chef défunt d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, Hamza Ben Laden. Une décision qui déclenche automatiquement des sanctions juridiques et financières contre l'intéressé. La désignation par le département d'État américain de Hamza Ben Laden comme terroriste international se fonde sur le fait qu'Al-Qaïda avait annoncé en août 2015 que le jeune homme faisait dorénavant partie du groupe djihadiste et qu'il avait lui-même menacé les États-Unis et leurs ressortissants dans un message audio diffusé en juillet dernier, selon un communiqué de la diplomatie américaine. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.